Alors, il y a une chose qu'on a apprise hier, vendredi, c'est la dégradation de la note de la France, en tout cas de la perspective de la France par l'agence Scope, qui est une agence européenne. Fitch avait déjà abaissé en avril, Standard & Poor's va le faire sans doute le 2 juin prochain, donc très prochainement. Et Christian Saint-Etienne, tout à l'heure, dans le journal de 18h, nous disait, bon, pour l'instant, dans les 18 mois qui arrivent, pas trop de conséquences sur la vie quotidienne, mais si ça continue comme ça, c'est la dégringolade. Benjamin
oui,
Morel.
Alors il va falloir voir, je ne suis pas économiste, mais il faut voir qu'aujourd'hui les banques,
ah bon
ont, non. Les banques ont malgré tout besoin d'avoir des obligations d'État dans leur bilan. Et donc des pays relativement sûrs comme l'Allemagne, mais également la France, eu égard à ces nouvelles réglementations, eh ben, sont plutôt avantagés.
Oui.
Et on voit mal aujourd'hui les banques considérer que la France va s'effondrer du jour au lendemain. Donc a priori, on reste quand même un pays dont les obligations sont des réserves. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la réforme des retraites avait pour objectif essentiel eh bien, de maîtriser ce type de choses à dessein, de pouvoir emprunter pour investir dans des politiques publiques. On voit que là-dessus, eh bien, non seulement cette réforme a été une bombe pour le gouvernement, mais ses conséquences ne sont pas du tout celles attendues.
Il y a peut-être quelque chose dans la cause aussi de cette dégradation, c'est qu'il y a notamment l'impossibilité ou la difficulté à faire des réformes. Donc, il y a évidemment ce qu'il y a de sous-jacent, pardon, c'est les conflits sociaux.
Alors, c'est les conflits sociaux, mais pas que. C'est-à-dire que les conflits sociaux, évidemment, le conflit sur les retraites a été exacerbé et on peut douter que le gouvernement se lance dans une nouvelle bataille durant les 4 prochaines années. Mais au-delà de ça, ce qu'a perdu Emmanuel Macron, c'est sa majorité, sa capacité à réformer. Donc si vous êtes une agence de notation, ou si vous êtes un bailleur, bah, vous vous interrogez sur est-ce que demain la France peut réagir face à des chocs systémiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec la majorité en capilotade qui est celle d'Emmanuel Macron, avec l'engoncement et l'incapacité à agir qui est la sienne, eh bien, la France n'a plus réellement possibilité de faire des réformes de fond, bonnes ou mauvaises,
et c'est là qu'on
durant 4 ans. Et c'est là le vrai problème. Ce n'est pas tellement les gens dans la rue, c'est le blocage du Parlement qui, aujourd'hui, pose problème.
Dylan Slama.
Oui, moi j'ai en tête la fameuse formule du général de Gaulle, hein, la politique de la France ne doit pas se faire à la corbeille. Aujourd'hui, on pourrait dire un peu la même chose. Moi, je trouve ça un peu inquiétant qu'on soit autant focalisé sur ces agences de notation qui, finalement, sont privées, qui sont très éloignées de nous et
bah
qui
oui,
n'ont
mais...
absolument rien de démocratique. Ça veut dire que ça me fait penser à ce qui s'était passé en Grèce il y a quelques années, où des gens venus d'ailleurs venaient leur dire, voici quelle doit être votre politique, ce qui est l'inverse exact de la démocratie. Et on regardait ça, je vais pas dire avec un peu de condescendance, mais on regardait ça en tout cas avec un peu de recul quand ça se passait en Grèce en disant nous sommes très loin de ça, mais de manière plus sournoise peut-être, on vit la même chose parce que ce qui guidait peut-être le gouvernement lorsqu'il a fait cette réforme des retraites, c'était un, ses agences de notation et deux, le fait de faire plaisir à l'Union européenne, à certaines instances, pour justement rester dans les clous. Alors ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas faire des efforts, mais disons qu'il faut les faire pour nous. Il faut les faire pour rester souverain et rester totalement indépendant. Donc encore une fois, plus tôt on se débarrassera de ces contraintes extérieures et mieux ça vaudra pour la France et pour la démocratie.
C'est intéressant ce que vous dites Dylan, parce que c'est vrai que quand on regarde le cours du CAC 40, hein, qui est l'indice français boursier, en fait, si la météo est mauvaise à Wall Street, vous avez un CAC qui dégringole, etc. C'est-à-dire que tout est, la politique de la corbeille, c'est une bonne formule, tout est décidé là-bas, et en même temps, le rayonnement de la France, sa puissance économique, et donc du coup les prix surtout sur la vie quotidienne, sur le pain, sur le lait, sur les exportations, le déficit commercial, tout est lié. Voilà.
Tout est en grande partie lié, mais je rejoins tout à fait
Benjamin
ce qui a été
Morel.
Dit, c'est-à-dire que on a aujourd'hui une politique fondamentalement comptable, et cette politique fondamentalement comptable en termes de finances publiques peut également être un problème. D'abord parce qu'on a oublié qu'il y avait d'autres façons de faire, et qu'emprunter sur les marchés financiers, par principe, c'est déjà un choix politique. C'est pas quelque chose de naturel. Pendant des années, on l'a pas fait. Et je crois que c'est
on l'a beaucoup fait ces dernières années parce que l'argent n'était pas cher, voire gratuit.
Bien sûr, voilà. mais on l'a fait également parce qu'il y a des contraintes européennes, parce qu'au niveau européen, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas avoir de refinancement, etc. Et je rappelle que des pays qui sont aujourd'hui des pays du tiers-monde comme l'Allemagne ou le Japon ont déjà fait défaut sur leurs dettes au cours du XXe siècle. Donc il faut également
nuancer
tout ça.
Comment ça, des pays du tiers-monde ?
C'était ironique.
L'Allemagne
a fait défaut, je parle sous votre contrôle, mais je crois deux fois au XXe siècle.
Ouais.
Et donc, vous voyez bien que faire défaut, parce qu'aujourd'hui, ça apparaît comme étant la pire des choses. Vous imaginez un État qui ferait défaut, la Grèce qui ferait défaut, ce serait la fin du monde. En réalité, l'Allemagne l'a fait. Donc, je crois qu'il faut nuancer tout ça. Je ne dis pas qu'il faut, demain, accepter la banqueroute. Je dis qu'il faut nuancer et qu'il ne faut pas penser que notre modèle économique est quelque chose de fondamentalement naturel.
Il y a des contextes historiques qui font que.
Il y a des contextes historiques qui font que. Mais il ne vous a pas échappé qu'on est dans un contexte historique également particulier. On a, pour parvenir à réduire la dette, on a sacrifié nos services publics. On est en train, l'Allemagne a fragilisé justement ses infrastructures, de même que les États-Unis pendant des années. Et du coup, on s'est rendu moins compétitif. On s'est rendu moins en capacité, justement, eh bien, d'avoir une position de force sur les marchés internationaux, ce qui fait que eh ben, exporter devient plus compliqué. Et donc, ça devient un cercle vicieux. Aujourd'hui, si on ne repense pas un peu nos politiques économiques, eh ben, il ne faut pas se plaindre que la même politique menée depuis 30 ans mène aux mêmes conséquences et que ces conséquences ne soient pas joyeuses.
Dylan Slamer.
Je suis assez d'accord. Et pour revenir sur un mot qui me paraît que vous avez prononcé, Benjamin Morel, et qui me paraît extrêmement important, c'est le mot de comptable. C'est vrai qu'on a des politiques qui sont comptables. Et ce qui manque, je pense.
Ce que disent les économistes, vous disent on est en économie de marché. Donc
oui,
on peut faire
mais
autrement.
Oui, disons qu'on peut faire des politiques qui soient comptables, mais on peut donner une vision avec ça. Vous voyez, je prends l'exemple de la réforme des retraites. On n'a pas parlé de travail. Le travail a énormément changé ces dernières décennies, notamment d'ailleurs avec la crise Covid ces dernières années. Et si vous voulez, on n'a parlé que de chiffres. Quel est le sens du travail? Comment travaille-t-on aujourd'hui? Comment travaillera-t-on dans l'avenir? Quelle est l'influence de l'intelligence artificielle? Tout ça, c'est ce qui permet de parler de ces thèmes-là, les thèmes du travail et éventuellement des retraites, mais en ayant une vision. Pareil sur l'énergie, on en parle toujours de manière comptable, alors qu'il y a des enjeux environnementaux. Donc je pense qu'il est possible de faire des politiques qui, bien sûr, ont une dimension comptable, mais qui seraient beaucoup plus acceptées si jamais elles donnaient une vision aux citoyens et à la France. Et je pense que c'est aujourd'hui cette vision qui manque.
Il y a une inflexion quand même sur le sujet environnemental. C'est récent, mais il y a une inflexion qui commence.
Oui, c'est vrai, mais moi je trouve qu'encore une fois, de ce point de vue-là, on n'a pas d'incarnation. Le ministre de l'écologie, par exemple, on l'entend peu, on sait à peine qui c'est, soyons honnêtes. On se rappelle simplement de Nicolas Hulot qui avait démissionné alors que lui incarnait quelque chose, mais son échec, et en tout cas son départ, pèse encore lourd, je pense, dans les consciences.
On a parlé plus
mémoires.
De son départ que son arrivée.
Exactement,
Nicolas Hulot.
ce qui en dit long. Mais moi je pense qu'il est possible de faire accepter des choses, et certains hommes politiques l'ont fait. D'ailleurs, on a rarement vu une réforme des retraites qui échoue à ce point-là d'un point de vue politique. Mais je pense qu'il faut savoir parler et qu'il faut savoir, encore une fois, donner une vision. Parler de la dette, par exemple, c'est possible. Certains hommes politiques l'ont fait, notamment en campagne, parfois. Alors, pas toujours avec succès électoraux, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut accepter des choses si jamais on a un discours de vérité et une trajectoire qui est donnée. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, on est uniquement sur un aspect comptable et j'ai presque envie de dire en lien avec des ambitions qui sont en lien avec ce que vous évoquiez, à savoir les notes des agences de notation.
Et puis, on est dans une crise qui est assez étrange, parce que quoi qu'on propose maintenant, quoi qu'on mette sur la table, on a l'impression que ça va finir en eau de boudin. Je prends la loi immigration qui a été retardée et qui va arriver finalement qu'à l'automne. Vous avez des républicains qui disent, ben voilà, nous on a la solution. Les républicains qui eux-mêmes sont nécessaires à la majorité pour pouvoir mener cette loi immigration qui arrive à l'automne. Enfin bref, c'est... Benjamin Morel.
Alors oui, on vit une double crise de l'impotence du politique. Une crise de l'impotence du politique, d'abord pour des raisons conjoncturelles. Il n'y a pas de majorité, et donc une loi immigration, 149 alinéa 3 qui mettra encore le feu aux poudres, et ben je vois mal comment ça passe, et ensuite on est dans la com' politique.
Un gouvernement sans majorité sous la 5e, c'est un rond dans un carré.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des façons de construire des majorités, souvenez-vous Rocard, etc. Mais là, évidemment, au vu de la structuration de l'espace public,
vous voulez
ça
que je vous compte le nombre de 49-3 sur Rocard ?
Oui, mais c'était différent. C'est-à-dire que Rocard, eh bien, parlait aux communistes et parlait aux centristes, faisait des concessions sur les amendements et les achetait, ces majorités. La plupart du temps, la plupart des 49 alinéa 3 de Rocard ne reçoivent pas de motion de censure. Vous voyez, c'est une autre façon de gouverner. Ce n'est pas tout à fait la période actuelle. Ensuite, et c'est important, il y a une impotence du politique qui est plus structurelle. Parliez de la loi immigration. Le problème de l'immigration, ce n'est pas une question de loi, c'est une question d'application de la loi. Ce que disent LR, c'est on va déroger au droit européen pour pouvoir vraiment faire appliquer la loi. Non tact, pourquoi pas, mais ça implique d'être dans une position de bras de fer avec la Commission européenne gardienne des traités et la CJUE, en mode ce que fait la Pologne. Est-ce que vraiment LR a envie d'aller dans ce sens-là? Je ne suis pas certain. De même pour l'économie. Lorsque vous arrivez avec une réforme des retraites en disant « je n'ai pas le choix », en fait, c'est terrible. Ça signifie qu'il n'y a plus de choix politique. Ça signifie que vous n'êtes là que pour exécuter une politique qui vous dépasse. Et ça, eh bien, l'électorat l'entend bien. Et pour l'électorat, il y a une double action. Soit je m'abstiens parce que le politique ne peut pas, soit eh bien, je vote pour quelqu'un qui fait exploser le système et on entre dans la stratégie populiste.
Merci beaucoup Benjamin Morel, merci à vous Dylan Slama.